mal fermé. Écoutez, ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là. Tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Oh, putain, moteur!
Hollywood. Le festival d'Holt fait son cinéma, concert, art de rue et bien d'autres choses encore. La 19e édition du festival d'Holt, c'est du 18 au 20 mai 2023. Hollywood, réveille le cinéma qui est en toi. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue, c'est la 19e édition du festival d'Holt et cette année le festival fait son cinéma Holtlywood. On est en direct du Blémar sur Radio Bartas et sur 48FM et je suis accompagné de Clara pour 48FM, bonjour.
Bonjour Ben, salut à tous.
On est bien hein?
On est très très bien, il fait beau, on a de la chance.
C'est ta première.
Tout à fait, c'est ma première, ouais.
Absolument ravi d'être avec toi, c'est trop cool, t'as changé du tour.
Ouais,
oh Ludo, t'es plus pareil. Hein.
Il a beaucoup rajeuni aussi. Hein,
tu m'étonnes. Arthur est à la technique, merci beaucoup. Au coup de main, c'est Léo, merci beaucoup. Et pour commencer, nous sommes avec l'équipe du Root Boy Crew. Dimitri, monsieur le président, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Camille, bonjour.
Bonjour.
Et Agathe, bonjour.
Bonjour.
Respectivement, coordinatrice du festival et Agathe chargée de com. Et merci à toi aussi pour la coordination de ce plateau. Évidemment, on est à Holt. Change, les artistes évoluent, ils bougent, ils changent de tête, enfin voilà, ils jouent, ils ont évidemment des impératifs, mais on va bien se marrer sur ce plateau, plein de choses vont s'y passer, il y aura même du live, bref, Holt a commencé hier, jeudi, ça va les amis, vous n'avez pas cramé trop de cartouches, Dimitri, comment on se sent là?
Là pour l'instant on tire déjà un petit peu sur les réserves, mais c'est normal, c'est un des grands plaisirs du festival d'Holt. Hein.
Tu m'étonnes, puis encore deux belles soirées qui s'annoncent, de belles journées qui s'annoncent. 19 ans Dimitri, monsieur le président,
ouais.
Est-ce qu'il va y avoir des belles surprises cette année avant la 20e ou alors vous avez gardé des cartouches pour la 20e?
On garde des cartouches pour la 20e, on a décidé d'être raisonnable pour la 19e et on prévoit de faire 4 jours de festival l'an prochain pour la 20e.
Ceci dit, précisons-le quand même, c'est pas du tout une affiche horrible.
Non,
il y a du lourd.
Ouais, je trouve qu'il y a une très très belle programmation, notamment en art de rue. Avec des très belles déambulations et puis en plus on a la météo qui finalement nous épargne, donc ça va être chouette pour tous les festivalistes aujourd'hui et demain. Et puis en soirée, je pense que le jeudi a déjà bien plu, mais ce soir ça va être encore plus gros.
Allez, on y va pour un petit historique. Le Root Boy Crew, c'est évidemment la pierre angulaire de ce festival, mais pas que ça. Camille, c'est quoi le Root Boy Crew?
Le Root Boy Crew, c'est tout un travail sur le territoire tout au long de l'année en saison au théâtre de Bagnoles, avec de l'accompagnement de compagnie en résidence de création. Le festival d'Holt, on essaye que ce soit une forme de finalisation des projets quand on peut, c'est-à-dire qu'on a du plaisir à accueillir les compagnies sur le théâtre et de les programmer au festival. Quand on peut et quand on y va, on les emmène aussi des fois à Chalon,
ouais,
dans la rue.
Et cette année, vous y étiez pas ou je me trompe?
Cette année, on n'y va pas, on y était l'année dernière.
Oui, voilà, d'accord, ok.
Voilà, donc l'idée c'est de d'accompagner les créations des compagnies d'art de rue et de promouvoir ça sur le territoire, de créer du lien avec les habitants. Voilà.
Que du bon, que du lourd. Le cinéma est à l'honneur. Alors mon cher Arthur, je sais que je suis le seul à avoir les retours. Est-ce que, même si j'adore, tu peux couper Duke Ellington en...
Comment ?
Il y a Duke Ellington qui est en son derrière. Alors, ouais, mais c'est vachement... C'est pas grave, ça va aller. On est en direct et on est en live.
C'est du live.
Le cinéma est à l'honneur. Rentrons un peu dans les coulisses d'Holt. Comment ça se passe pour décider du thème et comment, in fine, le cinéma est arrivé, si je peux dire, au devant de la scène?
Alors, le thème, il est décidé avec l'équipe scénographie qui est juste là-bas. Là, il nous regarde de loin, voilà. En général, on cherche tout bêtement un jeu de mots avec Holt.
Il y en a à faire.
Voilà. On a trouvé un 19e, donc c'est Holtlywood. Et puis après, faut que ça colle avec l'univers. Faut qu'il y ait une recherche de fond d'image pour développer le décor. Voilà.
Et vous pensez que ça va marcher de faire de l'ombre au Festival de Cannes cette année?
Mais je crois qu'ils sont foutus, Cannes. Hein. Ils sont dans le noir, je crois.
Ils ont annulé, là. Ça y est.
Le vrai tapis rouge est ici, la vraie montée des marches est ici, d'assaut, hein, les gens le savent.
Alors la prog, vous êtes un festival super éclectique, c'est l'identité du festival, je trouve. Comment vous bossez la prog ? Alors, rentrons pas dans le fond, parlons de la forme. Est-ce que c'est quoi ? C'est un gros colloque entre vous ? Comment ça se passe ? Vous discutez pendant un an dès la fin du festival fini ?
Alors sur la programmation d'Art de Rue, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail d'accompagnement de projet. Donc on rencontre des compagnies et des projets.
Grâce aux résidences.
Voilà, et c'est la suite de travail de résidence. Il y a aussi des compagnies qui sont programmées sans qu'on les accompagne. C'est des réflexions et des discussions en fonction de ce qu'on voit, des compagnies qu'on connaît, dont on aime le propos et l'artistique. Voilà, et c'est comme ça que ça se fait.
Parce que vous avez beau mettre en avant, là, pour ce festival, le cinéma, mais après, toutes les compagnies qui sont invitées, c'est tous les arts de la rue mélangés, hein, c'est ça ? C'est pas forcément que relié sous le thème du cinéma, quoi.
Non.
La programmation n'a pas forcément de lien avec le thème du festival.
Et combien de compagnies, alors, sont invitées, là, pendant ce festival, en tout ?
9, 8. Entre 8 et 9, si je compte bien.
Entre 8 et 9.
9, ouais.
Et au niveau des groupes, on est sur 12 groupes. Qui joue soit une fois, soit en interplateau deux fois sur les trois jours.
Et j'ai bien l'impression qu'en préparant cette émission, j'ai bien sûr pas encore vu les spectacles qui vont jouer tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même le reflet de la société avec pas mal de choses super engagées. On aura l'occasion de rentrer dans le fond, mais c'est vraiment le reflet, c'est comme si c'était un désir pour vous.
On aime bien raconter des choses, ou en tout cas trouver des gens qui le font mieux que nous, ou avec différents moyens. L'idée, oui, c'est d'ouvrir des espaces de réflexion. Voilà.
Et avec quand même une volonté, donc, pour cette année, c'est Sébastien Kuhn, l'ancien coordinateur, qui avait fait en grande partie la programmation rue. Et il y a quand même une volonté de proposer du spectacle public, du spectacle pour un peu plus vieux, des choses très esthétiques, des choses un peu plus qu'il faut réfléchir, etc. Donc pour cette année, on a vraiment une belle programmation à ce niveau-là, super complète. Ça vaut le coup, beaucoup de déambulation pour visiter le Bléma.
Et il y a aussi plusieurs petits endroits où on peut... Il y a par exemple une salle de cinéma, un photomat. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter aussi ça qui fait partie du décor, en fait,
Oui, tout à fait. Du coup, pour cette année, bon, comme chaque année, on invite soit des associations, soit des artisans qui viennent proposer des petits stands. Et cette année, c'est très complet. Puisqu'on a installé à l'accueil public, qui est donc au cœur du Blémard, près des Serres, enfin à côté du Près des Serres, il y aura plein de choses différentes. Il y aura des jeux en bois. Enfin, il y a des jeux en bois, ils sont déjà là. Il y a des massages thaï. Qu'est-ce qu'on a ? On a la Bastringue qui vient proposer des jeux forains, place de la Poste. Et aussi une petite installation qui s'appelle La Cabine. On a le marché des producteurs qui sera demain, artisans et producteurs, toute la journée dans la rue principale du Blémard, où là il y aura des producteurs, des créateurs locaux. Vous pourrez découvrir plein de choses, plein d'artisans, c'est vraiment, ça va être un moment très sympa. Et on a aussi le hangar au gorille qui propose du maquillage à prix libre, le Gorilla Beauty il s'appelle. Donc il y aura plein de choses, il y a Frisson et Anton, nos amis sérigraphes qui reviennent comme chaque année avec un visuel unique d'Hollywood pour faire vos t-shirts, vos robes de gala comme vous voulez, personnalisées. Et on a bien sûr nos amis du Mordor Fest, enfin toutes les assos amis qui tiennent le bar, voilà, des bénévoles qui font la restauration. Il y aura à manger, à boire, il y a de tout. Et pour la petite salle de cinéma, ça en effet c'était une idée du Root Boy et du Hangar ensemble, pour relier un peu à ce thème du festival. On a investi une cave au Blémard pour faire une petite salle de projection éphémère dans laquelle vous pourrez retrouver des petits courts-métrages, aussi des films qu'on a fait nous en apéro court-métrage, mais aussi les films qu'on a réalisés dans le cadre des ateliers court-métrages avec les enfants qu'on a fait entre janvier et avril. Et donc voilà, il y aura, faut passer devant voir la programmation, hein, mais il y a des petites projections toute la journée.
Ouais, c'est ça, c'est ouvert toute la journée, du coup on peut y aller quand on veut.
C'est ça, c'est un peu en continu, il y a quand même des horaires d'ouverture, donc passez voir un peu si ça correspond. Il y a du tout public, il y a du pas tout public, une sélection de courts-métrages aussi du Sauvage Ciné Club, qui sont nos amis qui aiment le cinéma dans le coin.
Puis en montage, on aura l'occasion d'en reparler avec un teaser qui, comme d'habitude, est à l'image de...
On a les stars qui sont là, d'ailleurs, du teaser. Ils viennent d'arriver, ouais. Un teaser qu'on a fait avec Le Sentier, donc qui est juste à côté, la Mex Le Sentier. Et des jeunes qui ont participé aux ateliers courts-métrages toute la saison. et qui ont été incroyables dans le tournage, et je pense qu'il y a des belles carrières en perspective pour eux.
Le festival Dolt tient la route cette année. Vous avez mis un peu le pied sur le frein pour justement lâcher les chevaux l'année prochaine. Il y a beaucoup de festivals qui malheureusement ont disparu l'année dernière. Est-ce que le festival Dolt va bien ?
Le festival Dolt va bien parce que je pense que tant que nous on va bien, ça ira bien. Et le festival Dolt, c'est avant tout une énergie. Et comme disait Agathe, c'est l'énergie du Root Boy Crew, mais c'est l'énergie aussi de tout un tas d'assauts. Il y a le Mordor, il y a les Formicables, il y a, je vais en oublier plein, il y a la soupe, il y a un tas de monde. Et c'est cette synergie qui fait que je crois que la culture en Lozère va bien pour l'instant, j'espère. En tout cas, il y a une programmation assez fournie pour un département comme le nôtre.
En tout cas, un beau message, c'est que rien ne peut se faire tout seul. Ça, c'est sûr.
Non. C'est que ça, la vie associative, c'est que le plaisir d'être ensemble et de travailler dur ensemble.
Ouais, tu m'étonnes. Comme je sais qu'il est super pressé et qu'il doit aller manger, on va accueillir tout de suite Brice. Brice du collectif Janine Machine vient nous rejoindre en plateau. Ouais, juste là, voilà. Merci beaucoup Brice, merci et bienvenue, bonjour.
Merci, salut.
Alors, toi tu joues un spectacle qui est programmé tout à l'heure à 17h et tu es venu en résidence, on en parlait tout à l'heure à Bagnoles. Sujet ô combien important, le PD.
Ouais.
Donc ça sera joué tout à l'heure, commençons par le début, le titre du spectacle. Brice, tu l'as voulu à la fois évocateur et provocateur.
Ouais.
On peut passer à la suivante. Hein, si
non, mais c'est vrai, il y a un des questionnements de la communauté queer d'aujourd'hui, qui est celle de la réappropriation de l'insulte pour en faire un objet de lutte. Et le PD étant une insulte, l'envie c'était de se réapproprier ce mot-là. Effectivement, la seule chose qui est provocante dans le spectacle, qui est provocante dans le spectacle, c'est son titre. Parce que le spectacle en lui-même, c'est une frise chronologique qui retrace les luttes homosexuelles des années 60 à aujourd'hui. Et homosexuels, pas LGBT.
Avec plaisir.
Donc ton spectacle, il se base notamment sur un événement particulier qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais un peu revenir un peu sur cet événement
Alors, il se base sur plusieurs événements. Ça, c'est le point de départ qu'on a choisi,
c'est ça,
nous.
C'est le point de départ, ouais.
Voilà. C'est le point de départ qu'on a choisi, nous. C'est un point de départ qui au milieu d'autres, je veux dire, il y en a eu d'autres, des points de départ. L'histoire des luttes homosexuelles et l'histoire des luttes LGBT, elle existe depuis que la communauté existe, ou en tout cas que les minorités existent, donc depuis la nuit des temps. Mais on a choisi ce point de départ parce que c'est une émeute, une révolution qui s'est passée aux États-Unis en 69, dans un bar qui s'appelle le Stonewall, à une époque où la communauté homosexuelle était réprimée, était illégale, et du coup la seule possibilité de pouvoir se retrouver et exister, c'était de trouver des bars clandestins. Donc il y en avait plusieurs un peu partout dans les États-Unis, enfin dans les grandes villes, pas dans les campagnes, hein, dans les grandes villes. Et à New York, il y en avait un qui s'appelle le Stonewall, où il y a eu un soir une émeute, enfin il y a eu une descente de police qui embarquait les gens et qui les mettait au poste. Qui du coup perdaient leur boulot, perdaient leur emploi, qui se retrouvaient dans le journal. Et du coup, ce soir-là, le 28 juin 69, les gens ne se sont pas laissés faire et se sont révoltés contre les forces de police qui sont arrivées. Et les émeutes ont duré 5 jours. Donc il y a eu 5 jours et 5 nuits d'émeutes. Et ça, c'était le 28 juin 1969. Et l'année d'après, le 28 juin 1970, il y a eu une commémoration de cette émeute qui s'appelle Christopher Street Gay Liberation Day, qui est la première Pride.
D'accord, donc c'est ça, c'est l'événement un peu pionnier finalement qui a...
De la Pride, ouais.
De la Pride et qui s'est perpétué depuis.
Ouais.
Ton spectacle aussi, tu le présentes comme un devoir de mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que c'est toujours susceptible d'être oublié, ce type de
ouais,
soulèvement?
Ouais, complètement. Mais c'est un peu tout comme le 14 juillet, tu vois. On ne sait plus pourquoi on fait un feu d'artifice. Mm-hmm. On ne sait plus pourquoi on regarde un feu d'artifice devant le 14 juillet.
Pourquoi d'ailleurs?
Ben, j'ai la sensation en tout cas qu'aujourd'hui on fait des choses par culture, on fait des choses parce que ça se fait, et que effectivement là où ça fait devoir de mémoire, en fait, c'est surtout parce que effectivement réhabiliter l'histoire c'est important, savoir d'où ça vient c'est important, parce que ça te permet de pouvoir plus comprendre ce qui se joue aujourd'hui et comment ça a évolué. Mais aussi et surtout, l'envie de ce spectacle, c'était de rendre hommage aux pionnières et aux pionniers de ces mouvements. Parce que les pionnières et les pionniers du mouvement homosexuel, ce sont les femmes et ce sont les personnes trans, les personnes racisées et les personnes à la rue. Et ces luttes-là, elles ont été réappropriées plus tard par les hommes blancs. Et c'est devenu la gay pride, et c'est devenu, tu vois, et les hommes blancs se sont réappropriés ces luttes d'une part, et ont viré des cortèges, en tout cas aux États-Unis dans les années 70 sur les premières prides, ont viré du cortège les personnes trans, les personnes à la rue et les travailleuses du sexe, parce qu'ils, elles, donnaient une mauvaise image à la lutte.
D'accord, ouais.
Alors que c'est ces personnes-là qui ont permis le soulèvement et qui ont permis à ces hommes blancs de pouvoir aller dans la rue et de pouvoir crier gay power, gay liberation. Et du coup, c'était rendre hommage à ces personnes-là, réhabiliter les choses, donc réhabiliter l'histoire et en même temps réhabiliter
les personnes marginalisées dans ce mouvement, en fait.
Finalement. Ouais, et puis ceux et celles qui ont permis qu'aujourd'hui on puisse faire un spectacle dans la rue qui s'appelle le PD, quoi, tu vois.
Entrons un peu dans la part tragique et terrible. SOS Homophobie a sorti son rapport il y a quelques jours. Là, les agressions homophobes ont quasiment doublé. L'année dernière, des footballeurs refusent de porter des maillots arc-en-ciel. Il y a les bouffons de l'extrême droite là qui aujourd'hui ne se cachent pas du tout sur leurs propos. J'en salis mon micro d'ailleurs. 10 ans après le mariage pour tous, les mentalités, même si pour certains ont évolué, on est quand même à la traîne. Est-ce que c'est un euphémisme ou quel est ton regard toi un peu sur cette société là aujourd'hui?
Il y a eu au même endroit, enfin. Au même endroit qu'il y a eu des pionniers et des pionnières du mouvement homosexuel, il y a eu des pionniers et des pionnières du mouvement homophobe. En France, en 2013, pendant le mariage pour tous, Brigitte Bargeot
Je désinfecterai la bonnette. Hein,
ouais. Brigitte Bargeot est une personne qui a permis d'assumer son homophobie. Et du coup, on est dans un schéma qui est parallèle à celui de l'homosexualité. Plus on ose affirmer son homophobie dans l'espace public, plus la montée de la haine augmente. Et depuis 2013, la montée des violences homophobes ne cesse d'augmenter. Donc cette femme a ouvert une brèche dans laquelle se retrouvent maintenant des partis politiques qui assument clairement leur homophobie. Zemmour fait des tracts anti-propagande LGBT.
Là, il va falloir des litres d'eau de Javel.
Au sortir des lycées et des collèges, il distribue des tracts de son parti sur lesquels il y a écrit « Attention à la propagande LGBT ». Marine Le Pen, qui devient une star populaire, Et qui passe à la télé en nous racontant sa vie. J'ai vu un truc sur Combini ou sur Brut ou je sais plus trop quel site là, où on lui pose des questions hyper intimes, comme si c'était une star populaire, alors que c'est quand même une femme politique avec un discours politique haineux et de droite, voire d'extrême droite, et cette femme qui est maintenant placée au centre parce que l'autre est arrivé et a pris la place de l'extrême droite. Et du coup, on est dans un schéma où effectivement on ose faire. Mais du coup, c'est aussi pour ça, si tu veux, proportionnellement, plus... Tu vois, il y a quand même des moments où, avec ce spectacle, ouais, j'ai quand même des petites crises d'angoisse, tu vois. Je me dis, mais attends, comment ça va se jouer, ce spectacle-là? À quel endroit je vais jouer? Donc, bon, dans des festivals comme ici, tu vois, tout à l'heure, par exemple, je le dis, parce que c'est arrivé tout à l'heure, en plein repérage, on était en train de faire un repérage, puis il y a une femme qui est sortie de sa fenêtre, dans les lotissements là-haut, hein. Si elle m'entend, je lui fais un gros bisou, qui est sortie de sa fenêtre et qui a dit... Le PD, spectacle de merde. Elle a dit ça pendant qu'on faisait un repérage. Donc elle nous a identifiés parce qu'on a déjà fait, quand on est venu en résidence, on a fait une sortie avec des élèves. Et donc je pense qu'elle nous a identifiés, je pense qu'elle sait qui c'est qui va jouer là-bas. Et du coup, elle a quand même sorti ça. Donc tu vois, finalement, il y a des endroits où effectivement je peux me dire, ok, il y a peut-être des endroits où ce spectacle il va pas être bien reçu et où je vais recevoir. Et je me dis, c'est proportionnel. La peur que j'ai de faire ce spectacle-là, elle est proportionnelle avec le besoin. De le faire.
C'est ça, de mettre en avant. Parce que du coup, le choix aussi d'investir la rue, c'est pas laissé au hasard non plus, j'imagine. C'est parce que tout part finalement des mouvements qui partent de la rue aussi. Et l'idée, c'est de reproduire ça un peu aussi à travers ce spectacle, c'est ça?
Ouais, c'est ça, c'est de retraverser les luttes, donc les manifestations. Et donc, en fait, ce spectacle, il va venir apprendre aux gens et réfléchir plus globalement sur ce que c'est une lutte, hein. Mais il va venir surtout apprendre aux gens comment est-ce que les homosexuels se sont appropriés l'espace public petit à petit dans le temps. Et effectivement, pour nous, c'est une nécessité, puisqu'on raconte l'histoire des luttes, de faire ce spectacle là où les luttes se passent, donc dans la rue. Et puis la rue, c'est aussi l'endroit où on s'expose, c'est aussi l'endroit où on se cache, c'est aussi l'endroit où on se croise, c'est aussi l'endroit où de mixité sociale. Et du coup, dans un théâtre, c'est nécessaire. Mais bon, après, c'est toute la discussion du théâtre de salle et du théâtre de rue. Hein,
bah
mais
voilà, j'allais demander peut-être, toi en tant qu'artiste pour ce spectacle-là notamment, parce que la rue peut laisser place aussi à plus d'imprévus, vis-à-vis d'un spectacle plus dans un théâtre fermé, non ? Il y a aussi ça qui est recherché à travers cette création ?
Bah moi j'ai la sensation, alors après j'ai un discours un peu, j'ai la sensation que le théâtre de salle, quand on voit qui va au théâtre de salle, c'est ou des amis des comédiens, ou des profs à la retraite, ou des profs en activité avec leurs élèves, ou des gens qui ont leur... et du coup c'est facilement des gens...
Public acquis quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Après, dans l'espace public, la question se pose aussi, hein, parce que quand on joue dans des festivals, tu vois, à quel endroit est-ce que tu joues devant les gens du village, les gens de la ville, ou est-ce que tu joues devant des festivaliers qui sont aussi tous, tu vois, des hippies ou des bobos de gauche.
Enfin,
tu vois, la question, elle se pose quand même, hein, mais en l'occurrence, j'ai la sensation de pouvoir, il y a deux choses, c'est que j'ai la sensation de pouvoir avoir une adresse plus globale en étant dans l'espace public, et il y a aussi la possibilité, quand on refait ces manifestations dans la rue, c'est que le public en soi revit cette histoire et se retrouve lui-même à la place de ses pionnières et de ses pionniers. Et du coup, il y a quelque chose qui ne pourrait pas se jouer pour moi dans un espace clos.
On a encore plein de questions à te poser, mais tu dois aller manger. Donc,
ouais, je vais aller manger.
Je vais peut-être finir par la dernière. Est-ce que c'est à la culture de changer de regard ? En sachant que derrière, tu l'as amené aussi aux collégiens du Bléard, puisque tu as travaillé avec eux.
Ouais, je pense que la culture, elle participe au changement de regard, ouais, bien sûr. Bien sûr.
Ben voilà, bon appétit.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci
on peut peut-être
beaucoup,
rappeler, Brice. Du coup, donc c'est.
Oui, c'est.
Cet après-midi à 17h, hein, c'est
à
ça.
17h, c'est tout à fait ça.
Avec je peux dire un truc.
Avec grand plaisir.
Pour les gens qui viennent, prenez quand même, on sait jamais, des sacs poubelles pour vos fesses.
Voilà.
Ouais.
Notez bien.
En tout cas, citons aussi Sarah Lugas-Marzouk, Brice, toi et Marlène Serlutus qui sont à l'écriture. Mise en scène par Sarah et assistant mise en scène. Marlène, merci beaucoup, Brice.
Merci. Sinon, si, attends, je peux dire juste un autre truc.
Avec grand plaisir, tant que t'as pas trop faim.
Ouais, en fait, c'est que c'est un solo, donc je suis seul au plateau, mais il y a quand même plein de gens derrière.
Ouais, j'ai essayé de les citer, ouais.
Ah ouais, voilà. Et il y a que des meufs. Voilà. Ouais, voilà. On est plusieurs à l'écriture, il y a Sarah à la mise en scène, à l'écriture il y a Sarah, Marlène et moi, il y a Céline qui a fait la scénographie, Marlène a aussi fait les costumes, il y a Esther à la diffusion et à la production, et on travaille avec une boîte de production qui s'appelle J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, j'ai cité tout le monde.
Merci beaucoup,
merci.
À bientôt.
Merci.
Bah, tout à l'heure, en tout cas à 17h, c'est sûr. On continue et on va parler de la scénographie qui est toujours absolument merveilleuse. Si Sophie est là, Sophie. Bonjour Sophie, le hangar au gorille absolument merveilleuse, la scénographie du festival, bienvenue. Alors bon, la question première est assez simple, quand le thème est décidé, en l'occurrence la Hollywood pour cette année, comment ça se passe? Est-ce qu'ensuite vous dessinez, vous faites des maquettes, vous faites des brainstorming?
Bah alors ça se passe que oui, on fait effectivement d'abord un gros brainstorming avec toute l'équipe du hangar et du Rude Boy pour essayer de sortir toutes les idées les plus stupides qu'on a dans la tête. Et puis
alors la plus belle idée stupide, c'est le Hollywood qui est là-haut, quoi. C'est absolument génial.
Bah ça, c'était notre gros challenge de cette année, et j'avoue qu'on s'est bien amusé à le faire et qu'on est très content d'avoir pu l'installer et que ça brille.
Ah bah quelle classe,
hein. Comme ça, voilà.
Et avec le petit thé qui est un peu penché là. Enfin, c'est magique. De loin, on voit Hollywood, on voit pas tout de suite le thé quand on arrive.
C'est le petit détail, ouais.
Ça tient.
Il faut savoir qu'Hollywood est une marque déposée, on n'aurait pas eu le droit. On l'a appris il y a une semaine à peu près.
Oh, vous auriez pris cher, il n'y aurait pas eu de 20e édition. Ouais.
Un procès avec Hollywood, ça aurait été classe en même temps.
Ça aurait été vraiment la classe. Ça prend combien de temps en moyenne et combien de personnes travaillent sur une scène pareille?
Alors, ça prend. C'est assez variable en fonction des années et des énergies qui viennent bricoler avec nous. En général, on fait un premier brainstorming à la fin de l'année, vers décembre. Là, c'est là qu'on a décidé la thématique. On a laissé mûrir un petit peu, et puis à partir de janvier-février, on a commencé à sortir les grandes lignes de la scénographie. Et puis mars-avril, construction, début des week-ends chantiers. Et voilà, c'est un petit marathon de 2 mois à peu près pour faire tout ça.
Avec combien de personnes à peu près en moyenne?
Alors on est une petite équipe de 4-5 personnes en fixe au hangar, et après on appelle à qui veut venir nous aider. Donc il y a eu plein de monde qui sont venus sur les week-ends chantiers, mais pas que, qui ont aidé sur d'autres périodes, qui ont aidé par de la récup ou d'autres choses comme ça. Voilà, c'est plein de petits coups de main qui permettent de construire tout ça.
Et donc pour planter le décor d'une ambiance hollywoodienne, s'il fallait quoi comme élément à ne pas pas rater, quoi, ne pas passer à côté. C'était quoi l'élément principal?
On en a déjà parlé, c'est l'élément clé, c'était les grosses lettres sur la colline. Ouais. Et puis après, on a essayé de faire un peu un jeu avec des éléments de décor qu'on avait déjà, de montrer l'envers du décor, de montrer comment on peut créer des univers avec la mise en situation d'objets, de fond en toile peinte, voilà, des éléments de béquilles, de caméras, de projecteurs, de montrer comment on peut faire illusion avec trois bouts de bois.
C'est ça, parce que finalement vous êtes un peu aussi dans votre élément, puisque vous êtes vous-même décorateur, et là vous reconstituez un espace qui se veut aussi fait de décor.
On a fait un décor de décor, ouais.
Formidable terrain de jeu qui est le blémard pour ça en fait finalement.
Ah bah carrément, nous on est très heureux de pouvoir travailler ici parce que c'est un coin qu'on adore parce qu'on y habite. Et puis c'est un vrai terrain de jeu effectivement, comme vous dites, c'est de repérer des endroits où on pourrait faire des choses folles et de pouvoir les mettre directement en application. C'est assez merveilleux de pouvoir travailler comme ça.
Est-ce que, on vous l'a dit, vous êtes 4-5, chaque personne dans votre petite équipe prend la direction artistique et emmène chacun là où vous êtes sûr que vous voulez aller? Comment ça se passe? Comme un bon spectacle en fait. Est-ce qu'il y a un ou une metteuse en scène, un grand patron, une grande patronne?
Alors on est sur une hiérarchie horizontale, on n'a pas de grand patron, mais par contre la direction artistique c'est un peu moi qui la donne, c'est moi qui...
C'est souvent les patrons qui disent ça, il n'y a pas de patron.
Mais moi j'essaye de construire un univers et après on l'alimente des idées de chacun et on voit qu'est-ce qui est réalisable ou pas en fonction des idées, des envies et du matériel et du temps disponible.
Votre spécificité aussi c'est de faire de la récup de décors, donc vous utilisez je crois à chaque fois des anciens décors des années précédentes de chaque festival. Est-ce que là ça a été compliqué pour trouver peut-être d'autres, faire appel finalement?
Ouais, parce que de Oltopia à Old Plymouth,
voilà,
il y a quand même
la même chose, quoi.
Il y a un petit saut, oui. Non, ça n'a pas été compliqué parce que déjà nous on a un stock de décors qui est assez conséquent et avec lequel on a pu jouer. On récupère aussi beaucoup de décors de compagnies ou de tournages de cinéma qui évacuent des choses. Et puis on bosse avec les gens qui ont des trucs à nous donner. On va fouiller les déchetteries et notamment les lettres Hollywood. Le tissu a été fait avec un seul rouleau trouvé en déchetterie et dont le dernier bout a habillé le dernier bout de lettre. Et c'était pile poil comme il fallait.
Est-ce qu'au moment du montage, il y a du stress en se disant ça va pas coller, ça va pas le faire, ça va casser
Il y a du stress, oui, notamment pour une installation comme ça où en plus on s'est pris 2-3 jours de gros vent juste après, mais bon, ça a pu nous permettre de tester la solidité du truc.
Ça va tenir quoi?
Ça va tenir normalement, ça devrait aller. Et puis il y a du stress parce qu'on a envie de faire toujours mieux et du coup c'est beaucoup d'intensité et d'énergie pour arriver à un résultat qui nous convient. Et ça nous convient toujours pas assez. On a toujours envie que ça dure encore une semaine de plus pour pouvoir pousser le truc plus loin.
Et il n'y aura pas de Chalon cette année, donc malheureusement, vous embarquerez pas les décors.
Et non, c'est un peu un regret pour nous au hangar parce qu'on aime, comme je disais, on aime bien avoir le temps de mûrir les idées. Et Chalon nous permettait de pouvoir ressortir ce décor et de l'augmenter et de le rendre encore plus beau. Mais c'est pas mal aussi de faire une petite année tranquille.
Dernière petite question pour moi, vous allez faire aussi un petit atelier de sérigraphie, tu peux nous expliquer en 2-3 mots
Alors la sérigraphie, c'est pas nous, c'est Frisson et Hanneton.
Ah zut.
Oui.
Ils
sont en train de bosser sur le site accueil, enfin le prédécesseur derrière là, et qui sont trop trop forts et très très gentils.
Ça a permis d'en parler. Hein.
Voilà, ils nous remercieront, n'est-ce pas? Dernière question, si on veut par exemple donner de nos matériaux, venir les déposer auprès de vous, où est-ce qu'on peut vous trouver au Blémard?
Alors là tout de suite dans le Blémard on est un peu partout parce qu'on a encore plein de choses à bricoler. Mais sinon nous on est basé à côté de Bagnoles-les-Bains, on a un grand hangar où on travaille à l'année parce qu'on fait des décors pour d'autres événements que le festival d'Olt. Et si vous voulez nous contacter, il suffit de chercher le hangar au Gorille. Il y a un petit numéro de téléphone, un petit mail, et on est souvent à notre hangar à attendre ou à travailler.
Et on mettra les liens sur nos sites, évidemment, respectifs. C'est grandiose, comme d'habitude. Merci beaucoup au hangar au Gorille. Merci beaucoup à toi, Sophie.
De rien. Et ils sont là, juste là. Je voulais juste dire encore un grand, gros merci à toute l'équipe du sentier et aux participants aux ateliers qui nous ont vraiment... permis de nous mettre dans l'ambiance et d'avoir déjà une vraie belle aventure sur le tournage du teaser. qu'on a fait ensemble et qui était, enfin pour moi c'était vraiment un moment exceptionnel.
Et
voilà.
Tu me mâches le travail, transition tout trouvé, puisque je vous demande d'accueillir sur ce plateau Mamoudou et Alassane. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et bienvenue. Moi, je m'appelle Alassane.
Enchanté.
C'est notre teaser. Et moi, j'étais la première fois de me, comment dire, de me retrouver à ce stade. J'ai tellement aimé, c'est à travers l'équipe et à travers comment dire, de toutes les personnes qui étaient à côté de nous. Et je tiens à remercier toute l'équipe et je tiens à remercier nos encadreurs et surtout la MEX aussi qui nous a beaucoup aidé à, le, comment dire, à être devant quelqu'un, de s'exprimer ce qu'on veut dire. Quoi. Vraiment, merci.
Et justement, parce que... Oui, vous pouvez. Hein. Parce que le teaser est absolument merveilleux, est magnifique. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu retiens, toi, Alassane, de cette expérience?
Oui, j'ai beaucoup expérimenté parce que moi, la partie que j'ai fait comme le lieu de service, moi, je faisais de la sécurité de ce police. Maintenant, j'étais à l'opposition de la pollution de la nature et puis avec écosystème, c'est-à-dire de ne pas faire la sécurité devant la nature. Et j'étais là encore à faire la sécurité de mon ami qui est cher, qui était le principal acteur. J'étais à côté de lui parce qu'à un moment, il était agressé. C'est moi qui étais parti pour le faire. Sauvé et puis je l'ai mis sous l'ordre et ça a passé. Merci.
Mamoudou, justement, t'as participé, t'es l'acteur principal, tu crèves l'écran sur le teaser, hein, autant le dire.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as été choisi? Est-ce que t'as postulé? Comment ça s'est passé pour devenir acteur dans ce teaser?
Oui, c'est vrai, j'ai été choisi.
La classe?
Pardon?
La classe?
Oh, ouais. Oui, tout à fait. Oui, j'ai été choisi. C'est... En fait, le tournage du teaser, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, moi. Parce que d'ailleurs, moi, je suis un artiste, je sens. Bah, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, d'être choisi comme l'acteur principal. Ça m'a beaucoup plu.
C'était la première fois que tu passais derrière la caméra?
Oui, tout à fait.
Derrière, c'était la première devant fois. La caméra, oh, qu'est-ce que je raconte, moi?
Oui, c'était la première fois.
Première fois.
Ouais, j'avoue, au début, c'était pas facile, hein, parce qu'on a beaucoup répété, on a répété avant d'y arriver. En tout cas, c'était trop dur. Au début, mais finalement, quand même, on a réussi à le faire.
Et tu as participé à l'écriture aussi ou toi, tu t'es laissé porter? Tu as écrit aussi le scénario
Oui, je dirais en tout cas, on a répété parce qu'on s'est donné des rendez-vous. Donc, on s'est donné des idées, comment est-ce qu'on va faire le tournage. Donc, on est venu même sur le lieu de tournage pour voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, c'est un peu ça, quoi.
Est-ce que tu peux peut-être nous décrire dans les grandes lignes, c'était quoi l'idée de ce teaser? Alors, il s'agissait de faire quoi?
Bon, l'idée de ce teaser-là, en fait, c'est moi qui étais le chef, quoi. J'étais le chef, j'étais le charme.
Et toi, tu l'assumes. Oh, c'est très bien, j'aime beaucoup.
Oui, c'est un peu ça, j'étais le chef. Donc, lui, c'était un policier. Et puis, il y avait aussi les agresseurs qui étaient là. Ils étaient tous en place le jour du tournage. Donc moi je descends et puis le policier vient et me trouve et me dit quitte dans cet endroit, quitte ici. Ensuite moi je lui dis laisse-moi tranquille, je n'étais pas content. Donc je suis parti, j'ai vu les fils du Tuxer qui étaient affichés sur le mur, j'ai commencé à lire ça. Et puis il y avait un ami encore qui était arrêté à côté, lui aussi il m'a dit non c'est pas là, il m'a montré la direction, avant c'est pas là. Ensuite, on me donne la rose. Donc, je viens trouver mon amoureux. Je lui passe la rose. Ensuite, on commence à partir. Donc, arrivé à certains niveaux, il y a des agresseurs qui sortent, qui m'agressent. Comme ça, le policier vient aussi me sauver.
En fait, on peut peut-être préciser que toi, on te suit tout le long de ce teaser et bien on passe sûr. De genre de cinéma en genre de cinéma. C'est un peu l'idée aussi, non? Tu parlais de policier, donc il y a un policier qui t'arrête. Après, tu vois ton amoureuse. Après, tu passes les marches.
Tout à fait.
Il y a une ambiance du cinéma qui est...
Oui, c'est un peu ça.
Ouais,
c'est ça.
Ok.
Qu'est-ce que vous avez appris? Parce que vous avez tout fait. Hein. Vous avez fait vous avez géré la caméra, la distribution, le scénario, la journée de tournage. C'est vous qui avez tout géré du début à la fin.
Oui, bien sûr, c'est nous qui avons tout géré parce que c'est grâce à l'équipe. C'est l'équipe qui était tellement dynamique. Ils étaient derrière nous à chaque fois, à chaque moment. Mais c'était pas du tout facile, mais on se sent erré par la suite parce que ça produit quelque chose de nous, quoi. on est fiers de ça, et puis on est fiers de la public, surtout la messe aussi, tu vois, non, parce qu'ils nous donnent une bonne éducation.